Aujourd'hui, on aborde la question de la délégation de la santé en milieu carcéral. Alors avant d'approfondir ce point précis, il n'est pas inutile de rappeler que la question de la délégation, elle est consubstantielle de la prison sur le continent. Dès l'époque coloniale, on observe une délégation de l'autorité des gardiens aux détenus pour gérer l'ordinaire du quotidien de l'intérieur de la prison. Alors évidemment, cette question de la délégation, elle est variable selon les pays et même à l'intérieur des pays, selon les prisons. Néanmoins, il n'en reste pas moins que cette question de la délégation, elle est caractéristique de la prison en milieu carcéral en Afrique.
Oui, tout à fait. Cette modalité spécifique de gouvernance a d'ailleurs fait l'objet d'un numéro spécial de la revue britannique Prison Service Journal. Et ce numéro, il est d'ailleurs intitulé « La gouvernance quotidienne de la prison en Afrique ».
Oui. De ce point de vue, la santé ne fait vraiment pas exception. À côté des acteurs officiels du soin dans les prisons, on trouve d'ailleurs aussi, comme dans les centres de santé en milieu ouvert, on trouve un ensemble d'acteurs qui ne sont pas officiellement enregistrés comme agents professionnels de la santé, mais qui font fonction dans les organisations. Donc en prison, ce sont des corvéables qui vont s'occuper par exemple de faire des pansements, peut-être de faire des injections, aussi d'assurer la prise des constantes ou de veiller sur les malades pendant la nuit, puisque les professionnels, eux, rentrent chez eux, même s'ils sont de garde, ils ne restent pas dans l'établissement. Un exemple, à la MACA, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, tu sais, c'est la plus grande prison d'Abidjan, il y a 7000 détenus en juin 2018, ça veut dire que cette prison abrite plus de la moitié de la population totale carcérale de Côte d'Ivoire. Je t'invite à regarder cette carte qui présente le ratio gardien et détenu, où on voit bien que dans une prison avec un tel ratio comme celle de la MACA, on voit bien qu'il est évidemment vital que les détenus jouent un rôle important dans la gestion ordinaire de la prison. Donc ces détenus à la MACA, ils sont appelés des corvéables. Ceux qui interviennent dans la santé, dans l'infirmerie, sont plus généralement des personnes qui ont une expérience de la santé en milieu ouvert, mais pas seulement. On va trouver aussi des personnes qui jouent un rôle d'aide-soignant ou éventuellement d'infirmiers, qui sont des détenus qui sont simplement là parce qu'ils connaissent dans les professionnels de l'infirmerie quelqu'un qui est originaire du même quartier, qui connaît le parent ou un ami, et qui va faire en sorte d'aider ce détenu à faire sa prison dans de meilleures conditions, parce qu'à l'infirmerie, en y travaillant, on peut se déplacer librement dans la prison, on va mieux travailler, on va mieux manger, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir avoir une entrée vers l'extérieur, parce qu'évidemment, on va être quotidiennement en contact avec des professionnels qui sont comme un go-between, un point de médiation entre l'intérieur et l'extérieur.
D'accord, donc là, c'est un peu les idées générales, et puis plus concrètement.
Eh bien, écoute, pour comprendre la logique concrète à partir d'une expérience, je te propose d'écouter Pacom. Pacom, il a été chef de bâtiment infirmerie à la MACA pendant plusieurs années. Et je l'ai rencontré récemment et on a fait un entretien à Abidjan où il raconte par le menu comment se passait concrètement l'activité de chef bâtiment infirmerie à la MACA. On l'écoute.
Je suis devenu corvéable au bâtiment infirmerie parce que dans la vie civile, la santé était mon métier. J'étais un aide-soignant avant d'entrer en prison. J'étais condamné, ce qui fait que je remplissais les conditions vis-à-vis de l'administration. J'étais de la santé, ce qui m'a permis d'être à l'infirmerie pour organiser mes cours de tenement pour aider le corps médical à soigner les malades.
Est-ce que tu peux nous
préciser quelles sont les conditions nécessaires pour devenir corvéable à l'infirmerie? Et quels sont les avantages de la fonction dans la prison?
Les avantages à l'infirmerie, pour moi, étaient que je circulais entre l'administration et dans la prison sans menace, sans peur. J'étais un peu comme libre.
Un peu intouchable.
Respecté par tout le monde. Par l'administration pénitentiaire, par mes co-détenus et par la santé. Et à bâtiment, j'avais mon chef commis qui avait des commis sous sa tutelle. Il y a deux éléments qui étaient au bureau fiche. Il y a des hygiènes qui sont chargés de s'occuper des salles des malades et des malades qui ne peuvent pas se mouvoir. Il y a des porte-clés qui sont chargés de faire la sécurité au sein de l'infirmerie. Il y a des agents de la morgue. Ils étaient des détenus aussi, qui s'occupaient de la morgue. Et il y a des détenus qui étaient au centre antituberculeux, qui s'occupaient aussi des malades de la tuberculose. Et qui étaient aussi le personnel soignant de la tuberculose.
Toi, en tant que chef bâtiment, tu logeais à l'infirmerie, tu avais ta propre cellule individuelle à l'infirmerie.
Oui.
Les autres corvéables habitaient dans les bâtiments d'incarcération, mais étaient décalés, c'est comme ça qu'on disait, pour sortir de leur cellule tôt le matin pour venir à l'infirmerie.
C'est ça. Je dormais à l'infirmerie et les autres habitaient dans les autres bâtiments A ou B. Et matin, ils venaient faire leur corvée à l'infirmerie. Et le soir, à partir de 18h, chacun rentrait dans ses bâtiments.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment faisaient les détenus dans les bâtiments pour accéder à l'infirmerie et particulièrement nous expliquer ce que c'était que le rôle du cahier malade?
Dans les autres bâtiments, il y a des gens qui sont chargés de décrire tous ceux qui sont malades, d'inscrire tous ceux qui sont malades dans leur cahier malade, pour les emmener à l'hôpital. Ça, c'est ce qui ressort des différentes concertations qu'on a eues avec les différents responsables des bâtiments. Mais les choses ne se passent pas comme on le souhaitait, puisque ceux-là même qui sont chargés d'écrire les noms réclamaient de l'argent aux détenus pour pouvoir les faire sortir, les décaler pour venir à l'infirmerie.
Mais dans ce système, l'offre de soins, elle est forcément inégalitaire. Elle va dépendre des revenus financiers ou des réseaux sociaux des détenus.
Oui, tout à fait. Écoute à nouveau Pacom, il va nous expliquer comment les détenus accèdent aux soins à l'extérieur de la prison.
Dans ce contexte, qui sont ceux qui parviennent par exemple à aller à l'hôpital ou à avoir des médicaments de spécialité ou avoir une consultation comme une radio ou en dehors de la prison?
Bon, là, ça dépend de la tête du détenu. Parce que la majorité, ceux qui sortent réellement pour aller dans les CHU, en dehors de la prison, c'est ceux-là qui viennent des assimilés. Les assimilés, c'est un bâtiment où c'est peut-être les gros bonnets, les ministres, les PDG de sociétés, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui viennent en prison. Ceux-là ont accès facilement dans les hôpitaux.
Est-ce que la prison, c'est la mort systématique des détenus les plus pauvres ?
Pas nécessairement. En fait, les représentations sociales de la maladie, la manière de percevoir le mal et sa gravité à l'extérieur, dans la société globale, joue aussi un rôle sur la façon dont on pense le mal dans la prison. Parfois, la prison peut être un espace de soins, mais dans le même temps, elle peut être aussi un espace de mort. Ou les questions de sécurité, par exemple, vont être mises en avant pour justifier le fait qu'on ne va pas prendre en charge un patient et qu'on va éventuellement le laisser dépérir. Écoute à nouveau ce que rapporte Pacom à cet égard, à partir d'une expérience qu'il a lui-même vécue.
Est-ce que tu peux nous dire, au regard de ton expérience à la prison, peut-être le moment où tu as été le plus satisfait de ton travail dans le secteur de la santé en prison, et peut-être le moment où tu as été le plus déçu de ton incapacité à faire quelque chose?
J'ai été témoin un jour d'un fait. Un nouveau mandat de dépôt qui est arrivé nouvellement dans la prison, qui a eu un malaise dans sa cellule, qui est venu à l'infirmerie, on l'a hospitalisé. Et vu son état de santé, qui était très critique, le médecin a fait un billet d'évacuation. Alors l'administration pénitentiaire a trouvé que c'est un nouveau venu, il n'a pas de statut. Ils ont retardé. Deux jours après, trois jours, au moment de le faire sortir, malheureusement, le monsieur il a succombé. Mais quand même, néanmoins, on a fermé les yeux pour le mettre dans l'ambulance, ils sont sortis. Et le CHU a fait le constat de son décès.
Est-ce que tu as le souvenir d'une action plutôt favorable?
De l'autre côté, il y a eu un cas de suicide. Un détenu qui est monté jusqu'à la dalle au cinquième étage, qui s'est laissé tomber, qui a eu de multiples fractures. Et j'étais seul comme étant un agent de la santé, puisque c'était un samedi, tout le monde était parti. Alors tout de suite j'ai fait sortir mon téléphone qui était interdit même en prison. Devant les surveillants, j'ai appelé l'infirmier de garde qui tout de suite est venu voir. Et puis bon, dans les heures qui ont suivi, il y a eu toute une chaîne de solidarité qui sont venus. Ils ont fait évacuer le monsieur, il est parti. Quelques 3 à 4 mois après, il est revenu bien portant. Et vraiment, j'étais soulagé, j'étais vraiment content de ce monsieur.
Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence entre celui qui a été évacué et celui dont tu nous as parlé qui n'a pas pu être évacué à temps? pourquoi l'un est parti et pas l'autre?
On a évacué l'autre parce que c'était visible. Tout le monde a vu son pied qui est rentré. Il y avait des fractures, tous les détenus, tous les gardes pénitentiaires. Ça a été un véritable spectacle. Puis il avait cassé sa mâchoire, ses mains, tout. Il y avait du sang un peu partout. Donc ça militait à sa faveur et on l'a évacué, même sans faire même un bulletin de radiographe et d'évacuation. Tandis que celui-là, là, il était bien gros. Lui qui est décédé, il était bien en forme, il est bien gros, mais il souffrait dans son corps. Et le médecin, voyant son tableau, a préconisé l'évacuation. Malheureusement, l'administration pénitentiaire
n'a pas reconnu.
Voilà comment elle...
Alors, il ne faut quand même pas considérer, à partir de ces témoignages, que la question de la santé en prison se limite à ce qui se passe dans la prison.
Et pourquoi ?
Parce que les détenus qui initient un traitement en prison, bien souvent, quand ils sortent de prison, ils sont perdus pour les soins. Pour deux raisons principales. D'abord, parce que quand ils sont originaires de quartiers populaires, quand ils retournent dans leur quartier, ils n'accèdent pas aux services de santé, parce que ces quartiers manquent de services. D'autre part, il y a aussi le fait que le stigmate de la prison les poursuit et qu'ils n'osent pas se présenter dans les centres de santé en témoignant de leur origine carcérale. Et donc, du coup, ils abandonnent les soins. Pacom nous a rappelé d'ailleurs, lors de notre entretien mené à Abidjan, qu'il aurait souhaité, une fois sorti de prison, jouer un rôle plus important dans la production du soin auprès de ces détenus perdus de vue, en allant les retrouver dans leur quartier, au titre et au nom, en fait, de la confiance qu'il avait tissée avec eux pendant la prison. Ça n'a pas été possible et il le regrette.